Jesus Christus.
Va-t-on vers un cessez-le-feu au Liban ? Réponse imminente d'Israël qui, en attendant, intensifie ses bombardements sur le pays du Cèdre jusqu'en plein centre de la capitale ce soir. L'Allemagne recense ses bunkers et abris en cas de guerre dans le pays. Nous retrouverons notre correspondante à Berlin. Dans ce journal, nous irons aussi en Éthiopie. Le conflit en région Amhara a de lourdes conséquences sur le système de santé. Et enfin, c'est un accord qui fait couler de l'encre, celui de libre-échange entre les pays du Mercosur et l'Union européenne, nous verrons qu'ils souffrent d'un manque de transparence.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir à toutes et à tous. Pour votre sécurité et celle des membres de votre famille, vous devez évacuer immédiatement ces bâtiments et ceux adjacents et vous en éloigner à une distance d'au moins 500 mètres. Ce message glaçant est celui que viennent de recevoir des habitants de plusieurs quartiers du centre de Beyrouth, la capitale libanaise. Message d'évacuation avant pilonnage envoyé par l'armée israélienne. Alors qu'Israël doit s'exprimer maintenant sur l'acceptation d'un éventuel cessez-le-feu au Liban, des réunions sont en cours au cabinet de sécurité israélien. Le projet de cessez-le-feu sur la table débuterait dès 4h demain matin. Mais avant une éventuelle avancée diplomatique, l'armée israélienne a fortement intensifié ses bombardements sur le Liban aujourd'hui et jusqu'à maintenant. À Beyrouth, Paul Khalife.
Du nord au sud, d'est en ouest, en passant par Beyrouth, un déluge de feu et de fer s'est abattu sur les Libanais en l'espace de quelques heures. L'aviation israélienne a commencé tôt ses bombardements sur la banlieue sud de Beyrouth, où des séries de raids ont entièrement détruit des immeubles résidentiels. Les avions israéliens ont attaqué le Beyrouth Intramuros, où un complexe religieux appartenant au Hezbollah, situé dans le quartier populaire de Nouaïre, a été détruit. Les chasseurs bombardiers ont lâché des leurres thermiques au-dessus du Grand Sérail, siège du gouvernement libanais dans le centre-ville. Saïda, Tyr, Nabatiyé dans le sud, Baalbek à l'est ont été attaqués à plus d'une reprise. Les frappes ont provoqué des destructions considérables, transformant en gravats des rues entières. Le camp de réfugiés palestiniens de Rachidiyé, près de la ville antique de Tyr, a été bombardé pour la première fois. Des dizaines de localités dans le sud du Liban et dans la plaine orientale de la Bekaa ont également été visées par cette vague de raids toujours en cours, l'une des plus violentes depuis le début de la guerre. Ces bombardements ont fait de nombreuses victimes, mais aucun bilan n'a encore été communiqué car les travaux de secours et de déblaiement des décombres se poursuivent. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Réunis en Italie, les pays du G7, le Canada, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon assurent qu'ils respecteront le mandat d'arrêt de la CPI. Cela implique qu'ils procéderaient à l'arrestation de Benjamin Netanyahou si celui-ci se rend sur leur sol. En revanche, pas les États-Unis qui n'a pas ratifié le statut de Rome, créant la Cour pénale internationale. L'Ukraine annonce qu'elle ne détruira pas son stock de mines antipersonnelles, 6 millions de mines héritées de l'époque soviétique que l'Ukraine aurait dû détruire car elle est signataire de la convention d'Ottawa sur l'interdiction de ses armes. Mais la diplomatie ukrainienne estime que l'invasion de l'Ukraine suscite des ajustements à cette promesse. La Russie et l'Ukraine utilisent des mines antipersonnelles dans l'Est ukrainien et les États-Unis ont proposé la semaine dernière d'en livrer à l'Ukraine. C'est une des conséquences de la guerre sur le continent européen. En Allemagne, les autorités réfléchissent à relancer un vaste programme pour remettre en service d'anciens bunkers et pour renforcer le système de protection civile. En cause, les changements géopolitiques et les tensions actuelles depuis la guerre en Ukraine. À Berlin, Delphine Nerbollier.
Du nord au sud, d'est en ouest, en passant par Beyrouth.
En 2007, l'Allemagne décidait de fermer la plupart des bunkers qu'elle possédait. À l'époque, les risques géopolitiques semblaient limités. Personne ne pouvait imaginer qu'une guerre éclaterait sur le sol européen. De nombreux bunkers hérités de la Seconde Guerre mondiale et des années de la guerre froide ont donc fermé leurs portes ou été transformés en garages, par exemple, ou en appartements. Aujourd'hui, c'est la tendance inverse. Les autorités réfléchissent à remettre en service les 579 bunkers civils encore existants. Ils pourraient accueillir près de 500 personnes en cas d'attaque insuffisant. Berlin et les régions planchent donc sur un programme pour trouver et aménager de nouveaux abris dans des garages, des caves, des stations de métro, dans des bâtiments publics ou privée. Les habitants devraient ensuite être prévenus par téléphone portable du lieu le plus proche de leur habitation. La relance de tels projets est une mesure préventive, rappelle-t-on à Berlin, mais qui en dit long sur la hausse des menaces actuelles et sur la prise de conscience des autorités allemandes. Berlin, Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
En 15 ans, le nombre de déplacés en Afrique a triplé, soit 35 millions de personnes qui ont dû quitter leur foyer pour s'installer autre part dans le même pays. Poussés sur la route par les conflits, violences ou catastrophes naturelles, selon l'IDMC, le centre de surveillance des déplacements internes. Le Rwanda et la République démocratique du Congo font un pas l'un vers l'autre. Les deux pays en conflit ouvert depuis des années ont approuvé hier un document qui est le prélude à un désengagement des troupes rwandaises en territoire congolais. L'annonce a été faite par l'Angola, pays médiateur dans cette crise. C'est un conflit qui a découlé de la guerre civile en Éthiopie, celui en région Amhara, dans le nord-ouest du pays, dans le sud du Tigré. Les violences réduisent le système de santé à néant, annonce aujourd'hui le gouvernement fédéral. Les précisions à Addis Abeba d'Augustine Passy.
Le conflit dans la région Amhara, au nord de l'Éthiopie, a un impact catastrophique sur les services de santé. C'est ce qu'a déclaré le ministre d'État, Ayele Tessom, lors d'une conférence de presse à Addis Abeba ce 26 novembre. Le responsable politique alerte sur des taux alarmants de malnutrition aiguë, en particulier chez les enfants. Il rappelle aussi que l'accès humanitaire est devenu difficile à cause des affrontements entre les rebelles FANO et les troupes fédérales. Ces combats ont commencé peu après la fin de la guerre dans la région voisine du Tigré et se sont intensifiés en août 2023. L'ONG internationale ACLED a recensé le 5 novembre les bombardements les plus meurtriers depuis le début du conflit. Ils ont fait au moins 43 morts dans la ville de Zibist. L'accès restreint des humanitaires et des journalistes empêche de connaître le nombre total de décès. Les combats s'accompagnent en tout cas d'une campagne d'arrestation arbitraire de masse menée par l'armée fédérale et la police. Et puis cette guerre ne prive pas seulement les riverains de soins. Plus de 5 millions d'élèves sont également déscolarisés, d'après le bureau régional de l'éducation en Amhara. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Un des derniers chantiers entamés par le président américain Joe Biden, il annonce vouloir faciliter l'accès aux médicaments contre l'obésité. Le gouvernement démocrate voudrait étendre la prise en charge de ce traitement, mais le temps presse avant l'arrivée de l'administration Trump en janvier. Aux États-Unis, 42% des adultes souffrent d'obésité. Devant l'Assemblée nationale de l'agriculture a réaffirmé l'opposition de la France à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Un accord qui pourrait être signé prochainement. Et cet après-midi, la Pologne a à son tour annoncé son opposition à ce traité. Mais la plupart des pays européens y sont favorables, malgré un manque de transparence dans les négociations. Comme nous l'explique ce soir Alan Hervé, il est professeur de droit public à Sciences Po Rennes en France. On l'écoute.
On a un document très général qui a été présenté par la Commission au début de l'année 2023 sur les objectifs de la négociation visant à un peu à renforcer le chapitre sur le développement durable. Tout cela n'est pas très clair et en l'état, à quelques jours d'une possible signature de l'accord, nous n'avons pas accès au résultat final de ces nouvelles négociations. Et le risque, c'est que l'on y ait accès au tout dernier moment, peut-être dans une version non traduite, et qui ne laisse pas suffisamment de temps pour la réflexion, notamment pour une évaluation sérieuse de la part des États membres. C'est un problème important. Puis l'autre problème, c'est que ces négociations, elles sont menées sur la base de directives de négociation, ce qu'on appelle le mandat couramment, qui ont été accordées à la Commission par les États membres via le Conseil de l'Union européenne. Et ces directives datent de la fin des années 90, et donc sont très largement obsolètes aujourd'hui, et elles n'ont pas été renouvelées. Et ça, c'est un problème à la fois en termes de transparence et plus largement en termes démocratiques.
Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel et le décryptage juridique de cet accord sera l'objet de notre dossier dans notre journal demain matin de 8h30. Le recul du sida dans le monde. L'année dernière, le nombre d'infections est tombé à son plus bas niveau. Selon l'ONU Sida, entre 1 et 1,7 million de nouvelles personnes infectées et 600 000 morts sur l'année. C'est le plus bas depuis le pic de l'épidémie dans les années 80. Mais dans le monde, près de 10 millions de personnes séropositives ne peuvent toujours pas accéder au traitement. Merci de votre écoute. L'information revient demain à 8h30 heure de Rome. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée.